Fénelon, l'éducation des filles, sélection, chapitre 13, des gouvernantes. Je prévois que ce plan d'éducation pourra passer dans l'esprit de beaucoup de gens pour un projet chimérique. Il faudrait, dira-t-on, un discernement, une patience et un talent extraordinaire pour l'exécuter. Où sont les gouvernantes capables de l'entendre? À plus forte raison, où sont celles qui peuvent le suivre? Mais je prie de considérer attentivement que quand on entreprend un ouvrage sur la meilleure éducation qu'on peut donner aux enfants, ce n'est pas pour donner des règles imparfaites. On ne doit donc pas trouver mauvais qu'on vise au plus parfait dans cette recherche. Il est vrai que chacun ne pourra pas aller dans la pratique aussi loin que vont nos pensées lorsque rien ne les arrête sur le papier. Mais enfin, lors même qu'on ne pourra pas arriver jusqu'à la perfection dans ce travail, il ne sera pas inutile de l'avoir connu et de s'être efforcé d'y atteindre. C'est le meilleur moyen d'en approcher. D'ailleurs, cet ouvrage ne suppose point un naturel accompli dans les enfants et un concours de toutes les circonstances les plus heureuses pour composer une éducation parfaite. Au contraire, je tâche de donner des remèdes pour les naturels mauvais ou gâtés. Je suppose les mécomptes ordinaires dans les éducations et j'ai recours aux moyens les plus simples pour redresser en tout ou en partie ce qui en a besoin. Il est vrai qu'on ne trouvera point dans ce petit ouvrage de quoi faire réussir une éducation négligée et mal conduite. Mais faut-il s'en étonner? N'est-ce pas le mieux qu'on puisse souhaiter que de trouver des règles simples dont la pratique exacte fasse une solide éducation? J'avoue qu'on peut faire et qu'on fait tous les jours pour les enfants beaucoup moins que ce que je propose. Mais aussi, on ne voit que trop combien la jeunesse souffre par ses négligences. Le chemin que je représente, quelque long qu'il paraisse, est le plus court, puisqu'il mène droit où l'on veut aller. L'autre chemin, qui est celui de la crainte et d'une culture superficielle des esprits, quelque court qu'il paraisse, est trop long, car on n'arrive presque jamais par là au seul vrai but de l'éducation, qui est de persuader les esprits et d'inspirer l'amour sincère de la vertu. La plupart des enfants qu'on a conduits par ce chemin sont encore à recommencer quand leur éducation semble finie. Et après qu'ils ont passé les premières années de leur entrée dans le monde à faire des fautes souvent irréparables, il faut que l'expérience et leur propre réflexion leur fasse trouver toutes les maximes que cette éducation gênée et superficielle n'avait point su leur inspirer. On doit encore observer que ces premières peines que je demande qu'on prenne pour les enfants et que les gens sans expérience regardent comme accablantes et impraticables épargnent des désagréments bien plus fâcheux et aplanissent des obstacles qui deviennent insurmontables dans la suite d'une éducation moins exacte et plus rude. Enfin, considérez que pour exécuter ce projet d'éducation, il s'agit moins de faire des choses qui demandent un grand talent que d'éviter des fautes grossières que nous avons marquées ici en détail. Souvent, il n'est question que de ne presser point les enfants, d'être assidus auprès d'eux, de les observer, de leur inspirer de la confiance, de répondre nettement et de conscience à leurs questions, de laisser agir leur naturel pour le mieux connaître et de les redresser avec patience lorsqu'ils se trompent ou font quelque faute. Il n'est pas juste de vouloir qu'une bonne éducation puisse être conduite par une mauvaise gouvernante. C'est sans doute assez que de donner des règles pour la faire réussir par les soins d'un sujet médiocre. Ce n'est pas demander trop de ce sujet médiocre que de vouloir qu'il ait au moins le sens droit, une humeur traitable et une véritable crainte de Dieu. Cette gouvernante ne trouvera dans cet écrit rien de subtil ni d'abstrait. Quand même, elle ne l'entendrait pas tout. Elle concevra le gros et cela suffit. Faites qu'elle le lise plusieurs fois. Prenez la peine de le lire avec elle. Donnez-lui la liberté de vous arrêter sur tout ce qu'elle n'entend pas et dont elle ne se sent pas persuadée. Ensuite, mettez-la dans la pratique. Et à mesure que vous verrez qu'elle perd de vue, en parlant à l'enfant, les règles de cet écrit qu'elle était convenue de suivre, faites-le lui remarquer doucement, en secret. Cette application vous sera d'abord pénible, mais si vous êtes le père ou la mère de l'enfant, c'est votre devoir essentiel. D'ailleurs, vous n'aurez pas longtemps de grandes difficultés là-dessus, car cette gouvernante, si elle est sensée et de bonne volonté, en apprendra plus en un mois par sa pratique et par vos avis que par de longs raisonnements. Bientôt, elle marchera d'elle-même dans le droit chemin. Vous aurez encore cet avantage pour vous décharger qu'elle trouvera dans ce petit ouvrage les principaux discours qu'il faut faire aux enfants sur les plus importantes maximes, tout fait, en sorte qu'elle n'aura presque qu'à les suivre. Ainsi, elle aura devant ses yeux un recueil des conversations qu'elle devra avoir avec l'enfant sur les choses les plus difficiles à lui faire entendre. C'est une espèce d'éducation pratique qui la conduira comme par la main. Vous pouvez encore vous servir très utilement du catéchisme historique dont nous avons déjà parlé. Faites que la gouvernante que vous formez le lise plusieurs fois et surtout tâchez de lui en faire bien concevoir la préface afin qu'elle entre dans cette méthode d'enseigner. Il faut pourtant avouer que ces sujets d'un talent médiocre auquel je me borne sont rares à trouver. Mais enfin, il faut un instrument propre à l'éducation, car les choses les plus simples ne se font pas d'elles-mêmes, et elles se font toujours mal par les esprits mal faits. Choisissez donc, ou dans votre maison, ou dans vos terres, ou chez vos amis, ou dans les communautés bien réglées, quelques filles que vous croirez capables d'être formées. Songez de bonne heure à la former pour cet emploi et tenez-la quelque temps auprès de vous pour l'éprouver avant que de lui confier une chose si précieuse. 5 ou 6 gouvernantes formées de cette manière seraient capables d'en former bientôt un grand nombre d'autres. On trouverait peut-être du mécompte en plusieurs de ces sujets. Mais enfin, sur ce grand nombre, on trouverait toujours de quoi se dédommager et on ne serait pas dans l'extrême embarras où l'on se trouve tous les jours. Les communautés religieuses et séculières, qui s'appliquent, selon leur institut, à élever des filles, pourraient aussi entrer dans ces vues pour former leurs maîtresses de pensionnaire et leurs maîtresses d'école. Mais quoique la difficulté de trouver des gouvernantes soit grande, il faut avouer qu'il y en a une autre plus grande encore. C'est celle de l'irrégularité des parents. Tout le reste est inutile s'ils ne veulent concourir eux-mêmes dans ce travail. Le fondement de tout est qu'ils ne donnent à leurs enfants que des maximes droites et des exemples édifiants. C'est ce qu'on ne peut espérer que d'un très petit nombre de familles. On ne voit dans la plupart des maisons que confusion, que changement, qu'un amas de domestiques qui sont autant d'esprits de travers, que division entre les maîtres. Quelle affreuse école pour des enfants! Souvent, une mère qui passe sa vie au jeu, à la comédie et dans des conversations indécentes se plaint d'un ton grave qu'elle ne peut pas trouver une gouvernante capable d'élever ses filles. Mais qu'est-ce que peut la meilleure éducation sur des filles à la vue d'une telle mère? Souvent, encore, On voit des parents qui, comme dit saint Augustin, mènent eux-mêmes leurs enfants au spectacle public et à d'autres divertissements qui ne peuvent manquer de les dégoûter de la vie sérieuse et occupée, dans laquelle ses parents mêmes les veulent engager. Ainsi, ils mêlent le poison avec l'aliment salutaire. Ils ne parlent que de sagesse, mais ils accoutument l'imagination volage des enfants aux violents ébranlements des représentations passionnées et de la musique, après quoi ils ne peuvent plus s'appliquer. Ils leur donnent le goût des passions et leur font trouver fades les plaisirs innocents. Après cela, ils veulent encore que l'éducation réussisse, et ils la regardent comme triste et austère si elle ne souffre ce mélange du bien et du mal. N'est-ce pas vouloir se faire honneur du désir d'une bonne éducation de ses enfants, sans en vouloir prendre la peine, ni s'assujettir aux règles les plus nécessaires? Finissons par le portrait que le sage fait d'une femme forte. Son prix, dit-il, est comme celui de ce qui vient de loin et des extrémités de la terre. Le cœur de son époux se confie à elle. Elle ne manque jamais des dépouilles qui lui rapportent de ses victoires. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et jamais de mal. Elle cherche la laine et le lin. Elle travaille avec des mains pleines de sagesse. Chargée comme un vaisseau marchand, elle porte de loin ses provisions. La nuit, elle se lève et distribue la nourriture à ses domestiques. Elle considère un champ et l'achète de son travail, fruit de ses mains. Elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force. Elle endurcit son bras. Elle a goûté et vu combien son commerce est utile. Sa lumière ne s'éteint jamais pendant la nuit. Sa main s'attache aux travaux rudes et ses doigts prennent le fuseau. Elle ouvre pourtant sa main à celui qui est dans l'indigence. Elle l'étend sur le pauvre. Elle ne craint ni froid ni neige. Tous ses domestiques ont de doubles habits. Elle a tissé une robe pour elle. Le fin lin et la pourpre sont ses vêtements. Son époux est illustre aux portes, c'est-à-dire dans les conseils où il est assis avec les hommes les plus vénérables. Elle fait des habits qu'elle vend, des ceintures qu'elle débite aux Cananéens. La force et la beauté sont ses vêtements, et elle rira dans son dernier jour. Elle ouvre sa bouche à la sagesse, et une loi de douceur est sur sa langue. Elle observe dans sa maison jusqu'aux traces des pas, et elle ne mange jamais son pain sans occupation. Ses enfants se sont élevés, et l'ont dite heureuse. Son mari s'élève de même et il la loue. Plusieurs filles, dit-il, ont amassé des richesses. Vous les avez toutes surpassées. Les grâces sont trompeuses. La beauté est vaine. La femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et qu'aux portes, dans les conseils publics, elle soit louée par ses propres œuvres.